Geneviève, on avait l'aîné pendant une grande partie de votre vie. Vous avez été journaliste à un journal catholique, mais à un journal catholique qui était la propriété d'une communauté religieuse.
Oui.
Qu'est-ce que ça représente pour une femme de se trouver comme ça ?
Vous savez, il ne faut pas croire que La Croix, qui est le quotidien catholique, a été un journal de curés. Il y avait des assomptionnistes, bien sûr, qui étaient propriétaires de la maison, mais c'était une grande équipe de laïcs. Je suis entrée dans une équipe d'hommes. Et j'ai été en 1951 la première femme à entrer dans ce journal. Et c'était une aventure. Car en réalité, mes confrères attendaient de l'aide. Et ils n'attendaient pas une femme.
Ils attendaient une secrétaire.
Oui, de l'aide. Ils avaient demandé de l'aide. On leur envoyait une femme. Et pour eux, ce n'était pas du tout évident. Et j'ai été rejetée de la salle de rédaction pendant 2 ou 3 jours par des boulettes de journaux bien tassées qui manifestaient un certain mécontentement. Et je pense que peu à peu, ils se sont rendus compte que je ne ferais pas porter mon sac et que j'étais journaliste vraiment à part entière. J'avais fait d'ailleurs 4 ans à la Croix du Nord avant d'entrer à la Croix de Paris, si bien que j'arrivais là avec mes classes faites.
Alors, journaliste, vous vous occupez à ce moment-là des questions féminines.
J'ai commencé par les questions féminines et familiales. Et puis, j'ai très vite fait du grand reportage. J'ai fait l'Afrique noire, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Je fais l'Algérie tout de suite après la guerre, 3 semaines, en plein OAS. Je fais les grandes catastrophes. Marcinelle, une catastrophe minière dans le Nord qui a fait 250 morts. Agadir, le tremblement de terre. J'étais à Agadir la nuit qui a suivi le tremblement de terre.
Vous êtes donc journaliste dans un journal religieux.
Oui.
Vous êtes une femme quand même qui avait aussi une expérience d'action catholique, donc très engagée dans l'Église. Est-ce que vous vous êtes sentie à l'aise comme femme dans l'Église ?
Ah oui, je dois dire surtout. J'ai eu l'impression quand j'ai quitté l'action catholique après avoir fait 10 ans au secrétariat général, après avoir fait de la propagande partout en France, que ma vie était finie. Que quelque chose était vraiment terminé. Et j'ai heureusement été rattrapée à ce moment-là par la Croix du Nord, précisément, et j'ai pu continuer mon travail à la Croix du Nord qui m'a remise un peu en scène. Et puis ensuite, après divers crochets, je suis passée à la Croix de Paris.
Oui, mais beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise dans l'Église, se sentent mineures dans l'Église. Est-ce que vous avez jamais eu ce sentiment-là ?
Je pense que beaucoup de femmes l'ont, et c'est ce qui a été un peu à la base de mon travail. À la base de mon travail, si vous voulez, il y a eu une question, qui est la question de la place de la femme dans l'Église. Puis il y a eu une constatation, qui est la pratique constante de l'Église concernant le seul sacerdoce masculin. Et il y a eu aussi, je crois, une intuition, qui est le principe théologique sur lequel repose ce seul sacerdoce masculin. C'est ce qui m'a mise en route.
Alors, n'allons pas trop vite. Je reprends ma question pour la troisième fois. Est-ce que vous, comme femme, vous n'avez pas souffert,
moi,
en tant que femme, de ce milieu ecclésiastique où vous avez travaillé, ce milieu d'église qui est un milieu d'hommes ?
Non, moi personnellement, non. J'ai eu en Action catholique des aumôniers extraordinaires, qui étaient des éducateurs parfaits et qui nous ont donné à nous jeunes toute notre place, qui nous ont fait une confiance extraordinaire. Et je n'ai pas senti jamais ce que vous dites. J'ai toujours pu m'exprimer comme j'ai voulu. Et je n'ai jamais eu, à l'égard des prêtres que j'ai rencontrés, le moindre complexe. Peut-être parce que j'ai rencontré des prêtres éminents.
Mais vous acceptez quand même que d'autres femmes n'aient pas eu la même expérience ?
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que c'est justifié ou si c'est une simple...
Ah si, je pense que oui. C'est justifié. Si les femmes demandent une place dans l'évangélisation, elles l'ont tout entière. Pensez par exemple à la France, la catéchèse est faite presque uniquement par des femmes en France. Ce qui manque, c'est d'avoir une place dans l'organisation de cette évangélisation. Il n'est pas juste que travaillant tellement au royaume de Dieu, elle n'ait pas une place dans l'organisation de ce travail, je crois. Et là, en réclamant une place dans l'institution, elles ont raison. Et il faut rapidement la leur donner. Elles ont déjà une petite place dans les comités paroissiaux, dans les comités même diocésains. Mais ça doit s'approfondir.
Qu'est-ce que vous pensez de cette position qui est soutenue par certains, selon laquelle la femme serait assujettie, n'est-ce pas, et que cette suggestion de la femme dans la société occidentale serait pour une large part la responsabilité de l'Église.
Moi, je crois que les clercs ont en effet contribué à présenter la femme comme faite pour l'homme, alors que la femme n'a jamais été faite comme l'homme que pour Dieu.
Vous allez un peu vite pour moi, là.
Je pense que Dieu a créé l'homme à son image, et qu'homme et femme, il l'a créé à son image spirituelle. Et là, il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme. Alors dire que la femme a été créée pour l'homme, pour moi, c'est se tromper. On tire des conséquences de ce récit sacerdotal de la création qui voudrait, ou le récit yaviste, je ne sais plus, qui voudrait que la femme soit tirée de la côte de l'homme, n'est-ce pas? Et partant de là, on a pensé que c'était l'homme qui était premier, la femme seconde. Mais personne n'a jamais souligné que c'était une très très belle image de la nouvelle Ève sortant du côté ouvert du Christ en croix, le nouvel Adam.
C'est un langage symbolique qui est quand même difficile à comprendre.
Vous trouvez?
Oui. Vous savez, nous sommes là dans un langage poétique, dans un langage symbolique qui me semble assez étranger à l'homme d'aujourd'hui.
C'est vrai, je le crois. Mais comment comprendre autrement la Genèse que dans ses symboles? La Genèse n'est pas une histoire. La Genèse est une série de symboles. Elle est une image, une catéchèse en image pour mettre en évidence les vraies valeurs. Il faut que nous en sortions les vraies valeurs. C'est quand même une symbolique.
Oui, mais c'est une symbolique quand même qui n'est accessible qu'à ceux ou à celles qui, comme vous, fréquentent la Bible. Et vous devez reconnaître, n'est-ce pas, que ce n'est quand même pas le fait de la majorité d'entre
nous. C'est vrai, mais là aussi, je pense que la majorité a tort. Je vous disais, je crois qu'on est fort aujourd'hui en mathématiques, qu'on est fort en sciences humaines et qu'on n'est pas fort en Dieu. Et ça me paraît grave, ça paraît faire des monstres. Si on ne peut pas parler un langage chrétien avec des chrétiens qui savent tant de choses dans d'autres domaines, moi ça me paraît tragique.
Oui, mais vous parlez des chrétiens, mais les chrétiens forment une minorité, une infime minorité, une minorité qui va se minorisant, si vous me permettez ce néologisme, n'est-ce pas? Tous les jours, les femmes et des hommes quittent l'Église parce qu'ils ne s'y sentent plus à l'aise, parce qu'ils ont l'impression que l'Église n'a plus rien à leur dire, et que tout ce message biblique ne signifie plus rien.
À mon sens, parce qu'il leur manque un axe. On ne perd pas la foi comme on perd son mouchoir, n'est-ce pas? On ne perd pas la foi si elle est axée sur quelque chose de vrai. Et tout se tient. Tout se tient.
Mais vous, comment êtes-vous venu à la lecture de la Bible?
Probablement parce que Dieu me passionne. Le mystère de Dieu et son rapport avec l'homme. Fondamentalement, il n'y a que ça qui me passionne. Je pense que toutes les questions que nous nous posons doivent trouver une réponse et je cherche cette réponse.
Mais vous ne pensez pas que la science, les techniques nous suffisent à trouver cette réponse?
Je pense que si par la science nous cherchons Dieu, nous ne le trouverons pas.
Oui, mais vous me dites toujours chercher Dieu, mais c'est comme si ça allait de soi.
Il s'est manifesté, non?
Pour vous?
Il s'est manifesté en Jésus-Christ, ou alors nous renonçons à tout.
Écoutez, on ne jouera pas un jeu, n'est-ce pas? Je suis prêtre, n'est-ce pas? Je suis chrétien, comme vous, mais je dois quand même tenir compte, n'est-ce pas? De tous ces gens qui ne le sont pas. Et je ne peux pas continuellement tenir ce langage qui me semble un langage de gens qui sont-ils favorisés, sont-ils au contraire, comme vous et moi, des gens qui sont obnubilés par des mythes. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Enfin, moi, j'ai fait un choix. Mais je ne peux pas quand même tenir un langage qui ne tient pas compte de tous ceux et celles qui refusent ce Dieu et qui ne veulent rien savoir de ce message, qui n'ouvriront pas cet évangile ou cette Bible qui vous tient tant à cœur. Et le langage que vous tenez me semble être un langage du petit groupe, de la minorité. La minorité qui n'est pas...
Le petit troupeau.
Oui.
Ils étaient 12 au départ, n'est-ce pas? Ils ont quand même révolutionné le monde.
Mais aujourd'hui, on ne révolutionne plus rien, nous, les chrétiens.
Peut-être que nous avons à donner un axe à ceux qui en cherchent un. On en cherche partout, on en cherche jusque dans les sectes. Et c'est un axe qui manque, je crois. Après ce livre, je travaille un catéchisme à l'usage de mes grands-neveux, les 25-50 ans, essayant de répondre à leurs questions, justement, pour leur procurer cet axe. Moi qui ai le temps de réfléchir, peut-être que je me dois de leur donner cet axe.
Et est-ce que vos neveux vous posent des questions?
Et oui, bien sûr. On ne peut pas aujourd'hui ne pas croire à la théorie de l'évolution. Par exemple, ils vous disent, mais qui sont Adam et Ève? C'est l'Australopithèque? C'est l'homme de Néandertal? C'est qui Adam et Ève? On ne peut pas ne pas leur dire que ces 11 premiers chapitres de la Genèse ne sont pas une histoire au sens historique du mot, mais vraiment une légende. Je n'aime pas le mot, mais une catéchèse en images pour un peuple alors peu cultivé, mais pour leur faire comprendre la véritable doctrine, je crois.
Oui, mais tout ça suppose quand même
un travail
que n'ont pas l'ensemble des gens qui doivent gagner leur vie.
Mais on ne peut pas ne pas travailler. Oui, c'est pourquoi nous devons, nous, leur donner ce qu'ils n'ont pas le temps de chercher, je crois. Leur simplifier la tâche en leur donnant ce qu'ils n'ont pas le temps de chercher. Mais je crois profondément qu'on n'est pas plus fort en Dieu sans travailler qu'on est fort en géographie sans travailler. Tout demande un travail. Et si on ne veut pas soi-même faire ce travail, personne ne peut vraiment le faire pour nous. Il y a une adhésion personnelle, il n'y a pas de doute.
Il y a un choix.
Ah, je crois. Je crois.
Et vous pensez que ce choix exige de nous qu'on y mette du temps?
Ah, tout à fait. Moi, je propose un axe. À chacun de travailler pour sa part. Je n'ai pas du tout la prétention de donner quelque chose d'absolu, quelque chose de définitif. Vous voyez, je n'ai la prétention que d'aider les autres à chercher.
Est-ce que vos neveux, vos nièces à qui vous pensez en faisant ces travaux, ces recherches, est-ce que parmi eux, il se trouve des incroyants?
Aujourd'hui, incroyants, peut-être pas tout à fait, mais pratiquants, la pratique n'est plus ce qu'elle a été, faut bien le dire.
Ou indifférent?
Oui, plutôt. Encore qu'il y a une recherche, on me demande ce que je pense.
Pour vous faire plaisir?
Non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une génération qui ne s'est pas tellement attachée à ce livre que j'ai fait, mais par contre, mes nièces me le demandent. Mmh. Et c'est la génération des jeunes. Mmh. Et je crois que j'ai plus d'écho chez les jeunes que chez une certaine catégorie d'adultes.
J'ai presque envie de vous poser une question stupide.
Ah,
est-ce que vous êtes religieuse?
Religieuse, vous voulez dire en communauté?
Oui.
Ah non, je suis une laïque pure. Je voudrais montrer qu'on peut arriver à Dieu par l'Évangile seulement. Et ça me suffit.
Mais quand on vous parle, est-ce qu'on n'est pas tenté de vous dire, mais est-ce que vous êtes religieuse comme je viens de le faire?
Non, du tout.
Jamais?
Non.
Et ça vous a jamais tenté de devenir religieuse?
Quand j'étais très jeune, missionnaire, oui. Mais l'Action catholique m'a fait découvrir qu'on pouvait aussi être missionnaire dans son propre milieu. Et j'avoue que je n'ai jamais eu aucun regret. Je suis convaincue que je suis beaucoup plus à ma place. Mmh. Que j'ai cette vocation-là d'essayer de donner un axe religieux à ceux qui m'entourent.
Mais je reviens un peu à votre ouvrage, par ce biais-là, cet ouvrage « La femme et le mystère de l'Alliance ». Est-ce que quand même dans l'Église, l'idéal féminin, c'était pas le fait d'être religieuse? Et que être dans le monde, être mariée, c'était quand même un pis-aller?
Ah non, pas pour moi. Pas pour moi. Et c'est précisément pourquoi je voulais, par ce livre, souligner une véritable doctrine mariale et non pas une dévotion mariale. Je crois que la dévotion mariale, non fondée sur une doctrine mariale, est un objet de division des églises. Tandis qu'une vraie doctrine mariale ne peut pas ne pas mettre en évidence la vocation spécifique de la femme. Pour moi, voyez-vous, Marie a été le lieu de réconciliation de la divinité avec l'humanité. Et la femme demeure le lieu de réconciliation de l'humanité avec Dieu.
Voulez-vous m'expliquer ça?
Alors, la première partie est facile, non? Marie, lieu de réconciliation de la divinité avec Dieu, c'est en elle que le plan de Dieu a pris corps. C'est en elle que Dieu s'est fait alliance, que la divinité s'est alliée à l'humanité. C'est elle qui a donné corps au Fils de Dieu.
Mais est-ce que vous voyez tout ce qu'il peut y avoir de choquant dans ce personnage de Marie? Pour une femme d'aujourd'hui, même pour des hommes d'aujourd'hui, une femme qui est vierge. Oui. Donc, tout de suite, on parlera de frustration sexuelle. Une mère, alors que Aujourd'hui, les femmes veulent se libérer, bien souvent, de leur maternité. Et puis encore, n'est-ce pas, une vierge mère. Et vous voulez parler de ce personnage à des femmes et à des hommes d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'il peut y avoir là de choquant?
Vous savez que André Manaranche, qui a fait tellement de bons livres sur ces sujets, a très bien répondu à ces questions.
Il a montré comment. La vôtre.
Oui, moi c'est aussi la mienne parce que je la redonne dans mon livre. Par sa virginité, elle fait la preuve que le Christ est don de Dieu. Don. S'il était fils de Joseph, il serait fils de Joseph, il ne serait pas fils de Dieu. Par Marie, Dieu a fait don à l'humanité de son fils.
Et vous pensez que un enfant né d'une relation normale entre un homme et une femme...
Il ne serait pas fils de Dieu, on n'a pas de père, n'est-ce pas? S'il est fils de Joseph, il n'est pas fils de Dieu.
Est-ce que nous ne sommes pas, vous et moi, fils de Dieu?
Par adoption, dans le fils, justement. Dans le fils. S'il n'y a pas lui, il n'y a pas nous. Nous sommes fils adoptifs, il est fils réel. Si vous supprimez ça, vous supprimez tout. Vous supprimez le mystère de l'Alliance, vous supprimez le mystère du salut, c'est par là que nous sommes sauvés. Parce que Dieu s'est fait homme, pour nous faire Dieu. C'est la patristique. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Mmh. C'est la croyance de nos pères depuis toujours. Mmh. Et si on ne croit pas ça, on ne croit rien. Alors on démolit tout. Démolir Marie, c'est démolir le mystère de l'Alliance dont elle a été la partenaire, dont elle a été la charnière.
Mais ce mot même d'Alliance est un mot que j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que c'est un mot mystérieux, c'est un mot difficile.
C'est un mot qu'on refuse.
On parle des
aujourd'hui.
Alliances économiques, des alliances militaires, oui. Mais l'Alliance dont vous parlez, quelle est-elle?
Oui, on la refuse, je pense, un peu aujourd'hui sur le plan religieux, parce qu'on voit le Christ époux, l'Église épouse. Pour moi, l'alliance, ça va plus loin. L'alliance, c'est l'alliance de la divinité à l'humanité. Et alors là, vous ne pouvez plus rien éliminer. Vous ne pouvez pas gommer la Vierge. Vous gommez le don de Dieu. Vous ne pouvez pas gommer la mère. Vous gommez le fils. Vous ne pouvez pas gommer l'épouse. Vous gommez l'alliance.
Alors, ça vous dit quoi, justement, sur cette question qui préoccupe tant de femmes chrétiennes, en tout cas?
Oui.
Quelle est la place de la femme dans l'Église? Que c'est déjà?
Pour moi, il faut absolument rendre à la femme sa place de partenaire de cette alliance. La déclaration de la doctrine de la foi en 1976 dit bien comment Dieu étant et demeurant un homme, seul l'homme peut représenter le Christ dans les actes essentiels de l'Alliance. Et moi je dis, mais pourquoi n'a-t-on pas tiré parti de la nature de la femme pour montrer qu'elle représente, elle, l'Église épouse? Ça aussi, c'est la révélation. J'ai l'impression qu'on n'a pas eu conscience de ce qu'est le corps, vous voyez, et qu'il faut revenir au corps. C'est Marie qui a donné le corps au Christ. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de consécration eucharistique si Marie n'avait pas donné corps au Christ. Il n'y aurait pas de corps. Il n'y aurait pas non plus d'église si la femme n'était pas là. L'Église baptise les enfants quand ils sont nés. C'est la femme qui donne corps à l'Église.
Oui, mais ce corps de la femme a quand même été tenu en suspicion par l'Église, par le discours chrétien.
C'est vrai, je crois qu'il faut revenir à une dimension plus saine de ces choses. C'est vrai. Je crois qu'il y a eu là des failles, des inquiétudes. La femme était la grande tentatrice. Alors nous restons...
Et un corps impur.
Oui, et nous restons sur ce péché d'origine qu'on nous attribue, n'est-ce pas? Alors que le péché d'origine, pour moi, ça a été une rupture d'alliance. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu rupture, je crois qu'il n'y a pas eu d'alliance du tout, au départ. C'était une impossibilité d'alliance. L'homme a refusé Dieu. Dieu esprit. Et de ce fait, il est tombé de son propre poids matériel. C'était la chute. Et ça a été en même temps l'éclatement humain. Il s'est cassé. Et on ramasse encore les morceaux, je crois.
Mais est-ce qu'on ramassera pas toujours les morceaux?
On ramassera toujours les morceaux. Jusqu'à la fin des temps... où le royaume, ce sera l'unité refaite, les deux en un. Pensez bien qu'à l'origine, quand la Genèse dit « ils se sont vus nus », pour moi, c'est la révélation de cette division. Ils ont toujours été nus. Mais L'unité l'emportait sur la division. Tout d'un coup, ils se sont vus deux, d'un qu'ils étaient. Et je crois que le royaume ne sera rétabli que quand l'unité sera rétablie. Tous en un. Pour moi, c'est le projet essentiel de Dieu, la Toussaint.
Mais je reviens encore à votre ouvrage. Je ne veux pas m'en éloigner trop quand même.
Oui.
Parce qu'il pose des questions que je crois fondamentales actuellement. Et disons que les solutions que vous apportez peuvent apparaître étonnantes. Par exemple, vous arrivez à la conclusion, justement à cause de cette théologie de l'Alliance, que la femme ne doit pas être prêtre. Alors qu'actuellement, il y a tant de femmes qui réclament le sacerdoce ministériel.
C'est vrai. Je vous donne ma pensée, hein. Je ne veux pas dire du tout que ce soit la pensée qui s'impose. Mais je crois que vouloir le sacerdoce pour la femme, c'est fonder le sacerdoce sur un principe social, historique. Elle n'a pas pu être au temps du Christ, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que les religions anciennes avaient des prêtresses. Bon.
Oui, mais il n'y en avait pas chez les Juifs.
Il n'y en avait pas chez les Juifs, qui étaient le peuple de l'Alliance.
Oui.
De l'Alliance.
Oui.
Ça veut peut-être dire quelque chose.
Mais un peuple qui a une tradition particulièrement misogyne.
Peut-être aussi. Mais bien, de toute façon, nous sommes là dans la sociologie.
Le Lévitique, n'est-ce
oui,
pas?
C'est vrai. Mais nous sommes là dans la sociologie, alors vous reconnaissez bien. Si on fonde le sacerdoce sur un principe social, alors c'est sûr que ça peut évoluer. Moi, je le fonde sur un principe théologique qui est le principe de l'Alliance et je dis on n'est pas à la fois l'épouse et le représentant de l'époux. La femme représente l'épouse, l'Église, vraiment l'Église, au service de laquelle est le sacerdoce. Le sacerdoce est un ministère au service de l'Alliance.
Oui, mais est-ce que vous ne transposez pas à ce moment-là sur le plan ministériel des réalités symboliques? Parce qu'en fin de compte, n'est-ce pas, l'Église, c'est un corps. C'est une société, c'est une institution. Et si vous donnez dans cette institution le pouvoir, parce que le sacerdoce est un pouvoir, et pas simplement un pouvoir spirituel, mais un pouvoir réel, un pouvoir... Vous écartez à ce moment-là la femme.
Alors, je sépare là, si vous voulez, le sacerdoce d'une place authentique de la femme dans l'Église institutionnelle. Une place qu'on a aujourd'hui que par le sacerdoce. Et je crois qu'il faut absolument lui trouver une place en dehors du sacerdoce. Un peu, si vous voulez, comme Simone Veil, pendant un temps, est arrivée au gouvernement autrement que par la politique. Vous voyez ? Je crois qu'il faut trouver à la femme une place dans l'Église autre que par le sacerdoce. Et ça, c'est un travail qu'il faut encore faire, un travail de recherche qu'il faut que nos théologiens s'appliquent à découvrir.
Nos théologiens et vous aussi. Puisque vous
et moi aussi, pourquoi pas,
Vous travaillez dans ce secteur-là, de toute façon, actuellement.
Oui, pourquoi pas. Je crois qu'il faut lui trouver cette place. Seulement, elle ne sera acceptée que par les autorités compétentes, nous dirons. Un pouvoir qu'il faut lui donner. C'est sûr qu'il y a un pouvoir qu'il faut lui donner. Autrement, pour moi, par le sacerdoce. Je les sépare. Une place dans l'organisation de l'évangélisation, vous voyez, ça c'est indispensable. Et on ne voit pas non plus pourquoi on ne lui donnerait pas la parole de temps en temps, comme vous nous la donnez gentiment. Parce que la femme a quelque chose à dire qui n'est pas la pensée de l'homme.
Oui, mais alors comment ça peut se faire? Est-ce que vous avez des modèles à proposer? Est-ce que vous avez des suggestions à faire pour accorder ce pouvoir? Ben, voyez-vous déjà mon langage de mâle, accordé, je vous sais.
C'est ça, c'est ça. Mais ce faisant... Vous mettez toujours le masculin en première ligne et vous nous faites une gentillesse en essayant de nous aligner, n'est-ce pas? Mais le masculin pour vous est toujours en première ligne, pas pour moi. Pour moi, il y a une égalité parfaite vis-à-vis de Dieu, bien entendu. Et je dirais que dans un certain sens, la femme comme partenaire de Dieu... Ah, je ne veux pas lui donner une priorité, non. Mais sur ce plan, peut-être un peu, vous voyez... Elle a été la partenaire de Dieu. Il en a voulu pour réaliser son plan.
Vous allez même jusqu'à dire qu'il y a entre la femme et Dieu un lien privilégié.
Oui,
c'est un peu choquant.
Oui. Un lien de partenaire.
Mais pourquoi?
Il a dit « Me veux-tu ?»
Pourquoi?
Et au nom de l'humanité tout entière, homme et femme, elle a dit oui. Alors que jusque-là, on avait dit non.
Donc vous revenez toujours à Marie?
Ah oui, je pense qu'elle était l'Église. C'est le cardinal Ratzinger, je crois, qui dit dans une petite brochure, elle était l'Église en personne.
Et elle a joué un rôle important, Marie, dans votre vie?
Ah, pour moi, oui. Elle était présente aux trois scènes constitutives du mystère de l'Alliance, c'est-à-dire l'Annonciation où se noue l'Alliance, Cana où se célèbre l'Alliance, et le calvaire où se scelle l'Alliance. Quand je vous parle de Cana, Cana est mon thème chéri. Je ne pense pas du tout que Cana a été l'intervention de Marie pour faire changer l'eau en vin. Je pense que Cana a été l'intervention de Marie auprès de la première cellule d'église pour lui faire admettre l'époux messianique. Faites tout ce qu'il vous dira. Et faites tout ce qu'il vous dira, c'est la phrase d'alliance par excellence. Quand Dieu a donné à Moïse les tables de la loi, le peuple tout entier a dit d'une seule voix, tout ce que Yahvé a dit, nous le ferons. C'est vraiment la phrase de l'alliance. Qu'elle a dit elle-même à l'Annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole, et qu'elle a fait dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira.
Parole qui doit être prise par chacun d'entre nous.
Ah, pour moi, c'est la vocation profonde. C'est sûr, l'obéissance à la loi.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre vie, Geneviève Honoré-Lénaud ?
C'est tout le travail d'une vie, n'est-ce pas ? L'obéissance à l'Évangile, c'est pas une petite affaire. Faire de moins en moins de place à soi-même pour en faire de plus en plus à Dieu, pour moi, c'est la vraie pauvreté qui constitue l'obéissance, qui constitue... L'obéissance à tout ce qu'il nous a demandé de faire. C'est vraiment le travail d'une vie.
À qui avez-vous eu à obéir ?
À Dieu. À l'Évangile. C'est pas facile d'obéir à l'Évangile. Je crois que c'est la règle de toute vie, non ?
Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir l'occasion de prêcher ? Si vous étiez un
quelquefois,
homme,
oui.
Pourriez
quelquefois.
Prêcher ?
Je pourrais vous dire, mais c'est tout à fait une confidence, peut-être que je peux la faire aux téléspectateurs canadiens. J'ai préparé ma messe de funérailles. Et je fais l'homélie. Je demande au prêtre qui la célébrera de me laisser pour une fois la parole. Parce que j'ai quelque chose à dire. Et j'ai choisi comme évangile la rencontre de Marthe avec le Seigneur au moment de la mort de Lazare. Et c'est l'homélie que je fais.
Et on peut la connaître.
Ah oh bien, je vous la communiquerai un jour, si vous voulez, mais pour le moment,
vous voulez pas qu'on
c'est
en
pas en notre sujet.
Vous voulez pas qu'on en
je suis pas morte
vous
encore.
Pas, vous avez l'intention de vivre encore un bon
moment. Oui. Mais quelquefois, c'est vrai, je voudrais faire l'homélie. J'ai l'impression que j'aurais des choses à dire que l'homme en tant que tel ne peut pas percevoir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont perçues par une femme.
On ne vous a jamais invité ?
Quelquefois, dans une petite communauté franciscaine où je suis très à l'aise, on fait un partage d'évangile. Et j'aime bien.
Mais vous savez bien comme moi que les hiérarchies ecclésiastiques, oui, ne veulent pas que les femmes prêchent.
C'est vrai, alors...
Elles ne veulent même pas qu'une femme puisse proclamer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu.
Alors taisons-nous, mais vous savez bien qu'il y a toujours deux silences pour une parole. Le silence qui la prépare et le silence qui l'écoute. Mm-hmm. Alors je pense que là aussi nous sommes gagnantes.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que vous êtes venu un petit peu trop tôt? Au fond, si vous aviez, disons, quelques années de moins, vous auriez des combats à mener là qui seraient... intéressant et passionnant.
De toute façon, nous avons vécu une époque passionnante et que ce que j'ai écrit là est le fruit de longues années de réflexion. Il s'est passé tant de choses, ne serait-ce que depuis 10 ans, n'est-ce pas ? Alors je pense que c'est le fruit de tout ça, mais j'espère que j'aurai encore un petit peu de temps pour développer davantage ma pensée.
Je n'en doute pas, mais il me semble quand même que les, je sais pas, mais il me semble que les 50 prochaines années vont être extraordinaires.
Les combien, les 50 ?
Les 50 prochaines années vont être extraordinaires, surtout pour les femmes.
Je crois que tout va très vite. Et qu'il ne faudra pas 50 ans pour que des choses se décident, je crois.
Mmh. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce que vous aimeriez changer demain ?
J'aimerais parler, j'aimerais écrire. J'aimerais que soit accueilli un témoignage de femmes sur des questions qui n'ont jamais vraiment été traitées que par les hommes. Mmh. Les exégètes, il y a eu des exégètes femmes, mais pas beaucoup, n'est-ce pas ? Mmh. Pas beaucoup. Et je crois qu'il y a une parole de femme à laquelle on n'a pas suffisamment donné accès.
Geneviève Honoré-Lénaud, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.